Chapitre 109. La neige recouvre la départementale 267 et un nuage blanc se soulève derrière la voiture. Yona double une vieille Volvo. Les roues passent en douceur sur le remblai entre les deux voies. Il allume les phares et les faisceaux lumineux créent l'illusion d'un tunnel à la voûte noire, surplombant le sol blanc. Il passe d'abord devant une étendue de champs qui a pris une teinte bleuâtre dans le déclin du jour, puis la route file à travers une épaisse forêt avant que les lumières de l'agglomération de Steket scintillent devant lui et que le paysage s'ouvre sur le lac Mälaren. Qu'est-il arrivé à la famille de la psychiatre? Yona ralentit, tourne à droite, s'engage dans un petit lotissement au jardin enseveli sous un manteau blanc. Le temps s'est dégradé et des bourrasques obliques chargées de flocons soufflent du lac. Le numéro 23 du biskop Nils Weg correspond à l'une des dernières maisons du lotissement, avant que la forêt et les communaux prennent le dessus. Le domicile de Suzanne Yelm est une grande villa claire au volet bleu ciel. Toutes les fenêtres sont éteintes, et la neige accumulée sur l'allée d'accès est immaculée. Yona se gare à quelques mètres de la maison. Il vient juste de serrer le frein à main lorsque la voiture de la police de proximité Duplansbro arrive. Il descend, prend son pardessus et son foulard sur le siège arrière et va rejoindre ses collègues en uniforme. « Yona Lina, Rikskrim !» dit-il en tendant sa main. « Elliot Sørenstam !» Elliot a le crâne rasé, un mince trait de barbe sur le menton et des yeux mélancoliques. Le deuxième agent de police lui serre fermement la main. C'est une femme qui se présente comme Marie Franzen. Son visage est joyeux et parsemé de taches de rousseur. Elle a des sourcils blonds et une queue de cheval. « Je suis content de te rencontrer en chair et en os, » sourit-elle. « Merci d'être venu aussi rapidement, » réplique Yona. « C'est seulement parce que je suis pressé de rentrer à la maison. Je dois faire des tresses à Elsa, » dit Marie cordialement. « Elle veut absolument avoir les cheveux bouclés pour la maternelle demain. »« Alors faisons vite, » répond Yona en se dirigeant vers le jardin sombre. « Je rigole, il n'y a pas le feu. J'ai aussi un fer à friser en dernier recours. » « Marie élève sa fille toute seule depuis 5 ans, » explique Elliot. « Et elle n'a jamais pris un seul jour de congé maladie. Elle fait scrupuleusement toutes ses heures. »« C'est gentil de dire ça, surtout venant d'un capricorne, » ajoute-t-elle avec de la tendresse dans la voix. Le bois derrière la maison atténue la force du vent, et la neige qui arrive du lac semble glisser sur les cimes des arbres avant de descendre tout doucement sur le petit lotissement. Alors que la plupart des maisons le long de la rue sont éclairées, le numéro 23 est plongé dans une obscurité funeste. « Il y a sûrement une explication, » dit Yona aux deux policiers. « Mais aucun des parents ne s'est présenté à son travail ces derniers mois, et les enfants sont portés malades à l'école. » La boîte aux lettres vertes à côté de l'armoire électrique déborde de courriers et de prospectus. « Est-ce que les services sociaux ont été alertés ?» demande Marie. « Ils sont venus. Ils disent que la famille est en voyage, » répond Yona. « On va sonner, mais on sera probablement obligé d'aller frapper chez les voisins pour se renseigner. »«
Il y a des raisons de soupçonner un crime ?»
Yona ne peut s'empêcher de penser à Samuel Mendel. Toute sa famille disparue, sa femme, ses enfants. Le marchand de sable les a pris, comme Jurek l'avait prédit. Et en même temps, ça ne colle pas. Suzanne Yelm a fait savoir à l'école que ses enfants étaient malades. Elle a personnellement signé leur certificat de maladie.